puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Florence Panier, bonjour.
Bonjour Hervé.
On se retrouve ici à la MJC pour évoquer le lancement d'une application développée pour la MJC, Espace Elios, de Lambre-les-Doués. Qu'est-ce qui a motivé cet investissement ?
En fait, pendant le confinement, on a voulu maintenir le lien avec tous nos adhérents de manière très très forte, en organisant des visios, des cours, des Facebook Live et en téléphonant à chaque adhérent, 1000 adhérents, on a téléphoné à tout le monde. Et en fait, pendant le confinement, on s'est dit, ces personnes-là nous trouvent formidables, tant mieux. Mais il y a quand même un retour qui doit être juste pour eux, c'est que souvent, ils s'inscrivent à un atelier ici, ils payent bien sûr une cotisation qui finance l'atelier, mais pendant 2 mois, 3 mois, on ne savait pas si on pourrait reprendre en juin. À l'époque, pour nous, la saison était terminée. Bon, heureusement, c'est pas le cas, on peut reprendre, mais on s'est dit, il faut avoir l'honnêteté, même si on est en droit de garder cet argent-là, puisqu'on est en force majeure, mais l'honnêteté de pouvoir faire quelque chose pour eux. Donc, on s'est dit, on va leur faire un crédit de 20% du montant de leur cotisation. Et comme on ne savait pas, avec le coronavirus, si on pouvait revoir les gens, et c'est vrai qu'ici, quand on inscrit, on est en direct, on n'est pas sur les sites internet, etc., ça se fait vraiment en présentiel. Et ne sachant pas si on pouvait être en présentiel et à quel moment, on a imaginé développer un site web ou des applications téléphoniques pour pouvoir générer ces crédits de 20% et que les gens puissent le gérer. Donc, un matin, j'ai tapé « développeur informatique sur Internet ». Et là, je suis tombée sur un jeune qui débutait et qui n'avait jamais développé d'application pour une entreprise ou pour un privé, et qui me dit on lance le pari. J'ai dit, on lance le pari. Alors, ce que j'ai appris, ça je ne savais pas, c'est qu'il faut un développeur iOS pour tout ce qui est Apple, et un développeur Android pour tous les autres téléphones sous Android, Samsung, Huawei, etc.
Il y avait la possibilité de faire évoluer le site internet vers cette gestion de crédit pour les abonnés. Vous avez fait le choix d'un nouvel outil.
En fait, c'est arrivé par hasard, parce que dans ma tête, au départ, ça devait pouvoir se faire via notre site internet. Mais la personne qui nous a gentiment fait le site internet, gracieusement, je ne savais pas où elle était, je ne savais pas comment elle était confinée, je voulais pas. Bon, c'est quelqu'un qui a un job à temps plein, hein, il a un autre métier, et il nous avait fait ça bénévolement, j'ai pas voulu le contrarier avec ça. Et je suis tombée sur quelqu'un d'adorable qui s'appelle Vincent Boulanger, qui était confiné à Lille, et qui a appelé une amie qui s'appelle Géraldine, qui était tout juste arrivée de Colombie pour vivre en France, s'installer en France. Elle est arrivée 2 semaines avant le confinement. Lui est développeur iOS et elle, Android. Et c'est pareil, elle a 20 ans tout juste. Elle a besoin d'être lancée. Donc on s'est dit, on va les lancer tous les deux. Et on va lancer le pari des applications téléphoniques. Il y a aussi, on avait constaté avec nos nombreux échanges, que les gens qui fréquentent la MJC ne sont pas forcément connectés à Internet H24 sur leur boîte mail, n'ont pas les notifications, les boîtes mail, mais ils sont plutôt sur l'explosion des textos et du téléphone. Donc on s'est dit, allons-y.
Un outil développé donc par des jeunes, ça peut répondre également aux critères de cette jeunesse, ce qu'elle recherche dans une application. Ça va permettre ça peut-être également de toucher un nouveau public, de rappeler aux jeunes, même si on est jeune très longtemps aujourd'hui, que la MJC, elle est accessible.
Alors oui, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au départ, dans mon esprit, c'était une application interne, comme un bon père de famille, comme les petits logiciels de gestion interne. Et en fait, je me suis aperçue, de fil en aiguille, qu'il fallait rentrer alors dans les mailles de Google et d'Apple, hein, les mailles du GAFAM. Et alors ça pose question aussi, hein, parce que du coup, on se retrouve sur la toile mondiale. Donc le logo de la MJC de Lambre est accessible sur la toile mondiale via Google ou Apple. Et ça, c'est quand même incroyable. On veut faire un petit truc et on se retrouve dans un maillon énorme, mais qui finalement va nous permettre des possibilités énormes, énormes en termes de gestion et de contact et d'information. Après, on peut être pour, on peut être contre. En tout cas, on ne lâchera pas, nous, notre communication de proximité, parce que c'est d'abord notre job numéro un et on aime les gens. Donc, l'application ne sera qu'un support.
Il se peut qu'il y ait des adhérents justement réfractaires à ces géants du numérique qui disent « Non, moi, je ne veux pas le télécharger parce que par conviction, je ne veux pas être espionné, je ne veux pas qu'on puisse avoir une quelconque accès à mes données. On pourra toujours fonctionner, j'ai envie de dire, à l'ancienne. »
Alors, on entend ce discours, mais regardez bien, qui n'a pas d'adresse Internet? Qui n'a pas de téléphone portable? Qui n'a pas de GPS? En fait, c'est comme le grand débat sur l'application Covid-19 pour le suivi de la propagation du virus. Moi, j'entends, je ne veux pas le télécharger, c'est la chasse à la sorcière, je ne veux pas qu'on sache où je suis, etc. Bah, je dis, mais t'envoies un texto. Dès que t'envoies un texto, Google, Apple, ils savent très très bien où tu es, à qui tu écris, quelle maîtresse tu as, la maladie de ta mère. Tout, s'ils veulent savoir, ils peuvent tout savoir. Alors, est-ce une lutte contre quelque chose inéluctable? On peut se poser la question, c'est le sujet d'un café citoyen, ça. Sinon, il faut tout arrêter et il faut partir. Mais on ne sait même plus où partir parce qu'on est toujours, toujours rattrapé par la nouvelle technologie, toujours.
Le progrès n'a de sens que s'il est utile, finalement. C'est ce qu'on peut retenir de cet épisode sanitaire. Heureusement que ces outils existaient. Un confinement il y a 30 ans aurait été beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui.
En fait, notre gouvernement a dit qu'on rentrait en guerre. Pour moi, ce n'est pas une guerre. C'est une lutte contre un virus qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais on n'est pas dans une guerre proprement dite, parce que c'est invisible. C'est invisible. C'est un peu comme la finance. Aujourd'hui, on parle de millions, de milliards. Ma belle-mère, qui a un certain âge, elle dit « Mais je ne comprends pas ça. On parle de milliards, mais ils sont où? Ils sont où, les billets ?» Mais il n'y a plus de billets. Tout est virtuel. Alors, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais si on n'avait pas eu ça là, pendant le confinement, comment on aurait pu communiquer? Comment? Je pense que ces outils-là ont permis à la population, aux Français, aux citoyens, de rester chez eux plus sereinement, plus confortablement. Sans les outils, ils auraient peut-être été amenés à plus circuler, à plus se rencontrer. Là, avec ces outils-là, eh bien, ils ont certainement bien mieux respecté le confinement.
Florence Panier, directrice de la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Douées.
Radio Scarp Sensé, la puce à l'oreille.
Cette nouvelle application qui arrive donc pour la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Douées, nos auditeurs peuvent très vite faire la recherche. Là, on va trouver dans les applications disponibles, c'est en ligne. C'est quoi? C'est une façon également de rappeler que il s'est passé quelque chose et que le monde d'après, ça y est, on y est, on a besoin de ça.
Alors cette période-là de confinement nous a fait poser beaucoup de questions, nous dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut anticiper l'avenir. On ne peut pas rester avec les outils actuels. On ne sait pas de quoi sera fait demain par rapport à toutes ces maladies qui peuvent se propager. Peut-être qu'il y en aura de plus en plus. On ne peut pas savoir. Mais il faut être, à mon sens, pro-réactif. Il faut penser à demain, il ne faut pas se dire que l'épisode est terminé. Il faut pouvoir, en étant confiné ou autre, pouvoir continuer à travailler. Et du coup, il faut réfléchir à ces outils-là en amont.
Elle a quel âge, la MJC Espace Hélios?
50 ans.
Aujourd'hui, quand on crée quelque chose, un business plan, de la communication, tout de suite, l'application, c'est quasiment quelque chose qui doit être là dès le départ de la création de quelque chose. C'est une façon également de ne pas manquer ce train-là, puisque aujourd'hui, tout ce qui va se créer sera intégré à ces outils quasiment dès le départ.
Je crois, Hervé, que tout nouvel entrepreneur, je crois que la première chose qu'il fait, c'est de créer un site internet, de se créer une boîte mail, de se créer les outils numériques avant d'aller prospecter le client. Avant, c'était l'inverse. On prospectait le client, on allait à la rencontre des gens et ensuite, on prenait l'outil numérique, ne serait-ce qu'une comptabilité. On achetait une comptabilité ou pour gérer, mais ça venait après. Et maintenant, quand on crée une entreprise ou quand on gère, que ce soit une association, on est obligé de se doter d'outils d'abord de gestion.
Elle va permettre quoi, cette application pour l'adhérent de la MJC? Et puis, est-ce qu'elle est uniquement réservée justement aux adhérents? Est-ce qu'elle a du sens si je ne suis pas adhérent à la MJC?
Elle a tout son sens parce que si tu veux venir au concert, Hervé, et que l'idée te prend à 22h et que nous sommes fermés pour te vendre une place de concert, eh bien, à 22h, tu pourras ouvrir ton application et acheter une place de concert.
Et ensuite, quels seront les autres services? On peut, par exemple, si on est adhérent, dire je viens à l'atelier, je viens pas à l'atelier, je m'inscris, je...
Longtemps, on a lutté contre les inscriptions à distance pour vouloir être en présentiel avec les gens, créer du lien. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes et on commence à se renseigner pour pouvoir s'inscrire en atelier, sur un atelier en ligne. Oui.
Donc ça va pouvoir se faire ou ça se fait déjà?
À mon avis, dans les 2 ans, ça pourra se faire. Dans les 2 ans, alors, ce sont des gros investissements. Hein. C'est un investissement de l'ordre de 10 000 euros tout de même. Donc, c'est énorme. Alors, après, la question, c'est comment on crée le lien avec nos adhérents. Mais finalement, tout ça, si c'est vite géré, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour faire de l'animation sur le terrain.
C'est-à-dire que là, ce qu'on a, c'est une première version de cette application. Elle sera... upgrader, comme il est convenu de dire aujourd'hui, améliorer, il faudra mettre des mises à jour.
C'est certain, c'est certain. Il y aura des mises à jour. Au départ, on ne voulait gérer que les crédits des cotisations d'atelier. Et en fait, mes deux développeurs, mes deux jeunes, ils me disent, mais il faut l'ouvrir un peu plus. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Oui, mais bon, c'est compliqué, je ne sais pas. Et on s'est dit, comme on peut déjà acheter des places de concert ici via le site Eloasso, je dis, faites des liens. Et donc, sur l'application mobile, il y a « J'achète une place de concert ». Et pling, vous tombez sur Eloasso et vous achetez votre place de concert.
C'est une première dans une MJC des Hauts-de-France. Même au niveau national, elles sont très peu à avoir aujourd'hui leur application.
Il paraît. C'est ce que j'ai appris il y a 2 jours, puisque j'ai eu un contact au niveau national, ce qui est incroyable, de Jeunesse et Sport, qui nous a cité comme exemple dans la gestion du confinement et du déconfinement, notamment sur tout ce qui est atelier bien-être et sportif.
Donc c'est une belle reconnaissance. Et là, tu as appris s'il y avait également des applications qui existent dans d'autres MJC?
Alors, il y a souvent sur des sites web des redirections vers des sites, des plateformes connues, mais à ma connaissance, je n'ai pas eu d'informations sur ce genre d'application téléphonique au sein des MJC. Et je sais aussi, puisqu'on est à la coordination des MJC en Hauts-de-France, qu'il y a très très peu de MJC qui ont repris le niveau d'activité comme nous l'avons repris.
Dernière question, pour les salariés de la structure, d'avoir cette application, c'est pas avoir le travail toujours avec soi en poche?
C'est le problème, il faut, et c'est là toute la difficulté mais aussi le challenge, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils décrochent. Et quand on était dans le confinement, forcément on était en lien sans arrêt avec nos portables, etc. Et moi j'ai imposé de ne pas se contacter en dehors de certains horaires. C'est-à-dire que c'était 10h midi, 14h-18h, ça fait des horaires un petit peu light, hein, mais bon, on était quand même light. Mais avant 10h, il ne fallait pas ouvrir sa boîte mail, il ne fallait pas lire ses messages téléphoniques qui provenaient de l'MJC, et il ne fallait pas en envoyer non plus. Donc c'était vraiment une discipline. C'est une nouvelle discipline, ça.
Il faut apprendre à se déconnecter.
Il faut apprendre, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail parce qu'on est addictif à tout ça. Hein, et on va chercher une info pour payer ses impôts. Et en fait, 3 heures après, on n'est toujours pas sur le site des impôts parce qu'il y a des pop-up qui se sont affichés. Et puis on se retrouve, on a acheté une paire de chaussures. Et puis, et un nouveau vélo. Donc, mais on n'a toujours pas rempli la feuille des impôts. Donc, c'est vrai que c'est très chronophage, ça demande une discipline. Mais quand on a cette discipline, et puis ça demande aussi de savoir oublier son téléphone dans un coin et de s'en aller.
Merci.
Au plaisir.
Florence Panier, directrice de la MJC Espace Hélios de Lombres-les-Doués, la MJC, où l'on retourne dans un instant à la rencontre de Mickaël Louchard, artiste, comédien en résidence.
Radio
Scarpe
Sensé.
He come all flat top, he come grooving up slowly. He got yo-yo eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what it please. He wear no shoe shine, he got toe jump football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say I know you and you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. He got Walrus Gumboot, he got almost cyborg, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his arms, sure you can feel his disease. Come together right now over me.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Mickaël Louchard, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ici à la MJC Espace Hélios de Lombres-les-Doués. Vous avez investi les lieux pour une résidence dont on va parler, pour monter un spectacle dont on va parler, mais on va commencer par parler de vous. Qui êtes-vous?
Eh bien, je suis un homme, hein, déjà. Non, mais voilà, je suis comédien depuis une dizaine d'années à temps complet. Avant, j'étais enseignant, j'étais prof de français, histoire, géo. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des scènes, monter des sketchs, me présenter dans différents lieux. Et de fil en aiguille, comme j'ai vu que ça fonctionnait de plus en plus, un beau jour, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale, de démissionner. C'était en 2010, donc en janvier 2010, donc voilà, ça fait 10 ans. Et puis maintenant, je suis comédien.
Il y a eu des regrets, déjà, ou jamais, ou il y a eu de la crainte
Aucun regret, aucune crainte, non. Non, non, je suis très content d'avoir quitté. J'aimais beaucoup enseigner, hein, c'est quelque chose que j'aimais bien, mais à un moment donné, j'avais perdu ma place, je m'ennuyais. Et je me suis dit, si moi je m'ennuie en donnant cours, il ne faut pas demander à les élèves, donc je ne suis plus à la bonne place, je pars.
Enseigner l'histoire, raconter des histoires, c'est la même chose?
Parfois, ça peut l'être. Ça dépend des sujets, ça dépend du cours. Ouais, je me rappelle, par exemple, où j'étais enseignant à la fois de français et d'histoire-géographie, puisque j'étais en lycée professionnel. Oui, parfois, en histoire, je pouvais commencer par une chanson de Boris Vian, par exemple, sur la complainte des arts ménagers, pour discuter ensuite des années 70 et puis des 30 glorieuses. Ça pouvait commencer comme ça, un cours ou parfois prendre un tableau statistique sur les médaillés aux Jeux Olympiques et puis demander aux élèves de faire une carte en fonction des performances. Et on s'apercevait très vite que les pays du Nord raflaient plus de médailles que les pays du Sud, par exemple. Voilà.
C'est une façon de mettre en scène déjà à ce moment-là?
Ouais, c'est une façon de mettre en scène. De toute façon, on est sur. Enfin, je dis toujours, j'ai quitté l'estrade pour une scène, mais ça reste des planches en bois. Et donc, c'est un véritable one man show. Effectivement, on est seul face à un public déjà.
Ça s'apprend, ça, justement, l'art du spectacle, l'apprentissage. Ou alors, on se lance, on s'essaye dans des comités restreints de proches ou.
Alors moi la première fois que j'ai fait un spectacle, je venais d'avoir le concours de prof et puis j'avais envie d'écrire des spectacles et j'ai fait ça dans ma maison. Voilà, j'ai fait venir une quinzaine d'amis, j'ai fait une première représentation de différents sketchs et à la fin je suis allé voir mes amis et je leur ai dit bon, vous êtes mes amis, donc si vous pensez que je dois continuer, vous me le dites, mais si vous trouvez que j'ai aucun talent, il faut me le dire aussi. Et puis la plupart ont dit non, mais on sent que tu commences, mais vas-y, fonce. Voilà, puis j'ai foncé comme ça.
Ça parlait de quoi? Les tout premiers sketchs, les tout premiers spectacles.
Tout premier spectacle, c'était déjà des personnages. Alors pour le coup, il n'y avait pas de trame narrative, contrairement aux différents spectacles que je fais maintenant. Je raconte vraiment une histoire et c'est plus des solos théâtrales. Non, là, c'était une galerie de personnages. Une galerie de sketch dans la pure tradition de ce que peut faire, je sais pas, un Dupontel ou un Bénureau, ou voilà, mais c'était pas du stand-up, c'était vraiment une galerie de personnages.
Qu'est-ce qui fait rire, les personnages ou les situations ou les deux, ou c'est un mix des deux?
Je pense que la situation est très importante, qu'elle est d'autant plus forte quand on y met des personnages. Mais au départ, il faut quand même des situations. Ouais, je n'arrive pas à faire, par exemple, des blagues pour de la blague. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, je préfère partir de la situation qui va faire rire ou pas. D'ailleurs, je ne suis plus dans cette tyrannie du rire où il faut absolument rire toutes les 3 secondes. Donc du coup, on met des vannes pour faire rire. Non, là, c'est vraiment la situation. Et dans le nouveau spectacle, d'ailleurs, je ne sais pas du tout quelles vont être les réactions du public, parce que je ne veux pas les prendre en otage dans leurs émotions. C'est-à-dire que j'aimerais, voilà, et ça se trouve, sur la même scène, il y en a un qui va me dire, qui va dire, ah, ça m'a mis en colère, ou ça m'a fait rire, ou ça m'a fait pleurer, je ne sais pas, voilà.
La situation, il faut qu'elle soit plausible, ou alors on peut emmener très loin dans un imaginaire un petit peu comme ceux qui manient l'absurde en quelque sorte. Vous êtes plutôt dans un attachement concret ou alors ça peut partir dans des délires?
Ouais, ça part dans des délires. Alors, je peux partir dans la folie, effectivement. Mais la situation au départ, elle est quand même très concrète et très plausible. Même si après on décale la chose. Mais au départ, c'est quand même, il y a un fondement possible.
Michaël Louchard, à ce moment-là, il se raconte en partie, il se livre sur scène, ou alors il y a quand même de la distanciation. C'est votre histoire, c'est une partie de l'histoire, c'est une réinterprétation.
C'est une réinterprétation. Ouais, c'est une réinterprétation. Par exemple, le nouveau spectacle va être tiré du livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Un père à aimer ». Évidemment, il y a une part autobiographique. On part de soi, de toute manière, quand on écrit. Donc, il y a une part d'autobiographie. Néanmoins, les personnages qui sont évoqués dans le livre et les situations, je ne les ai pas vraiment vécues. La situation initiale du livre, sans trop en dévoiler, mais donc du one man show aussi. C'est le 12 juillet 98. Il part avec son pote regarder, voir la finale de la Coupe du Monde. Donc il y a une temporalité importante aussi, puisque à l'époque on n'avait pas encore l'habitude des portables. Donc là j'ai un Nokia, un vieux Nokia 98 en main. Je te le montrerai tout à l'heure. Et en fait, à l'issue de la finale, il rallume son portable. Donc ils sont en train de faire la fête sur la place de Lille. Et il allume son portable et là il a trois messages. Je ne sais pas si je les dévoile ou pas. Pour montrer la situation. Bon, je les dévoile. Le premier message, c'est sa femme qui dit « Guillaume, viens vite, c'est pour maintenant ». Le deuxième message, c'est pour c'est le docteur Falcon de Nice qui lui dit que son père a fait un AVC et il faut qu'il vienne en urgence. Parce qu'il n'en a peut-être plus pour longtemps. Et le troisième message, c'est Damien Ducrot de la maternité Jeanne de Flandre qui lui dit « Votre femme, elle a couché avec trois semaines d'avance, il faut que vous veniez. Félicitations ». Donc le héros se retrouve dans la posture de décider d'avoir un choix à faire. Est-ce qu'il va aller voir son père mourant ou est-ce qu'il va aller voir d'abord son enfant et sa femme? Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, donc il y a un vrai choix. Et cette situation-là, je ne l'ai pas vécue pour le coup.
Ouais, et c'est pas forcément la situation la plus marrante au départ, quoi.
Non. Et c'est la particularité de mes spectacles, c'est qu'en fait, c'est pas forcément drôle au départ. Et puis en fait, ça le devient. D'ailleurs, je me suis rendu compte là avec la mort de Bedos qu'on avait peut-être ce point en commun là, c'est que il faisait rire des choses qui n'étaient pas drôles. Voilà.
Oui, c'est tout l'art finalement d'être capable d'amener son auditeur à ce moment-là vers autre chose.
Ouais. Et encore une fois, pas qu'il y ait d'émotions, de prise d'otage des émotions. C'est-à-dire que je ne vais pas accentuer le trait, stabiloter le trait pour que les gens mécaniquement rigolent. Parce qu'il y a une mécanique du rire aussi. Hein. Et là, je ne veux pas ça. Je veux dire, ils seront libres de rire, de pleurer, de s'énerver. Enfin voilà, ils seront libres de leurs émotions.
Est-ce que si on a lu le livre, le spectacle est déjà spoilé ?
Non, parce qu'il y a des choix, à faire. On peut pas tout raconter. C'est un livre qui fait 260 pages. Je peux pas jouer 260 pages sur scène. Sinon, ça durerait 6h30. Donc il y a des choix à faire. Et même ça peut être intéressant de lire le livre et venir voir le spectacle ou inversement de voir le spectacle et ensuite lire le livre. Ça peut être intéressant.
Il y avait le besoin d'unir les deux.
Alors oui. Alors d'abord, j'ai eu cette idée-là il y a quelques années et je n'arrivais pas à m'y mettre parce que je n'arrivais pas à faire de choix entre écrire un scénario, écrire un roman ou écrire un seul en scène. Et en fait, c'est Christophe Coquelet qui tient la librairie des Quatre Chemins, que j'ai rencontré il y a 2 ans, c'est une belle rencontre, mais il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu t'embêtes ? Écris le roman ! Et du roman, tu pourras sortir le solo et le scénario. » Et j'ai dit « Mais oui, en fait, il a raison, on va commencer par ça. » Et du coup, l'idée, enfin la cerise sur le gâteau, ça serait qu'effectivement, il y ait un scénario qui sorte et qu'il y ait le film qui sorte. Parce que c'est écrit quand même de manière très cinématographique.
Du moment où le spectacle est écrit, qu'on investit une salle, cette fois-ci, pour commencer à travailler, mise en scène, lumière, scénarisation, il y a des choses qui vont encore évoluer. Est-ce que les contraintes techniques peuvent avoir une incidence, finalement, sur la narration par elle-même ?
Alors la mise en scène est faite par Mélanie Sand et on a eu au départ on s'était dit oh il va peut-être y avoir un décor donc ça aurait été une contrainte technique notamment le décor et puis en fait on s'est dit ah, non allez on met pas de décor le plateau sera nu et par contre tu vas tout mimer, tu vas tout la situation, par exemple l'accouchement de Nathalie, on va voir Damien Ducrot qui fait l'accouchement et je vais tout mimer autour, c'est-à-dire que je vais mimer le fait de lui mettre une perfusion, je vais mimer le fait de lui mettre le monitoring, de lui mettre les jambes dans les étriers, enfin voilà, donc il y aura ce sens du détail là dans la mise en scène, il y a ce sens du détail pour faire vivre vraiment la situation.
Michel Louchard, comédien en résidence à la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Douai, à propos de son seul en scène, Un père à aimer.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille.
C'est quoi un temps de résidence dans un lieu comme celui-ci, dans la salle de spectacle de la MJC de Lambre-les-Douai ?
Là, c'est un temps assez particulier, puisque en fait, on a commencé la mise en scène avec Mélanie en février. On avait une semaine de février. Non, mais c'était même avant ça. C'était, je crois, oui, en décembre de l'année dernière. On a eu une semaine au Petit Théâtre de Templeuve. Et puis en février, on s'est retrouvé une semaine au Petit Théâtre de Templeuve. Et puis on devait avoir une semaine en mars pour jouer le spectacle. Donc ça devait être, je sais plus, les 25 et 26 mars. Et puis on devait se retrouver une semaine encore à la ferme du Pire à Villeneuve-d'Ascq. Et puis, ben voilà, ça s'est arrêté. Donc moi, je devenais dingue. J'étais très déçu de ne pas pouvoir faire les deux premières représentations. Et puis, une petite baisse de morale quand même. Et puis, du coup, on s'est dit, de toute façon, on ne peut pas se voir. On peut pas. Voilà, donc, il y a eu un temps mort pendant 2 mois et demi, 3 mois. Et puis, début mai, je me suis dit, ouais, des clous. Je répète dans mon appartement, je reprends tout seul. Alors on va se revoir avec Mélanie très prochainement. Mais là, pour l'instant, je reprends. Et puis Véronique m'a appelé en me disant, bah, si tu veux, la salle de la MJC est libre, donc tu peux venir répéter. Donc voilà, donc je viens répéter. Alors Mélanie ne pouvait pas parce que voilà, il y a des contraintes avec son fils et tout ça, puisqu'il ne va pas à l'école en ce moment. Mais nous, on va se revoir certainement en septembre, octobre pour bosser la mise en scène. Et normalement, je devrais avoir ici une date. Je crois que c'est le 10 ou 15 octobre, je ne sais plus.
Ce temps de confinement, ça fait quoi? Ça fait mûrir les choses? Ça les a modifiées ou ça a simplement mis de l'appétit supplémentaire?
Alors, de l'appétit supplémentaire, ça c'est certain. Peut-être effectivement ne pas laisser reposer les choses. Ça permet aussi au cerveau d'intégrer finalement. Parce que je dis tout le temps, le cerveau il est plus intelligent que nous. Donc même si moi j'ai eu l'impression de laisser pendant 2 mois le projet en suspens, je pense que mon cerveau non, puisqu'il y a eu des idées qui se sont mises en place. Dès que je suis revenu travailler ici, j'ai dit, ah oui, bah tiens, on peut faire ça, ça, ça. Et je pense que ça a mûri pendant ce temps de confinement. Ouais.
Ça changerait quelque chose d'avoir à jouer devant une salle organisée de façon différente avec des contraintes sanitaires imposées, de la distanciation sociale, le port du masque? Est-ce que on peut aller chercher et comprendre l'émotion du public s'il porte un masque?
Ben déjà, ce qui est bien avec le masque, c'est si jamais une vanne ne fonctionne pas, je le verrai pas. Non, alors par contre, je pense que la difficulté de jouer devant un public où chacun va se retrouver peut-être à 1 ou 2 mètres les uns les autres, ça va manquer d'homogénéité. C'est-à-dire que je pense que dans les salles de spectacle, il y a un vrai partage à partir du moment où les gens sont les uns à côté des autres. Voilà, il y a une émulsion par le rire, et je pense que cette distanciation sociale va être néfaste pour la bonne dynamique du spectacle. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je sais pas, on va tester peut-être bientôt.
On pourrait parler de contamination d'émotions quand le public est justement très proche.
Ouais, et c'est vrai que généralement, quand on joue dans une salle où il y a 70 places et qu'il n'y a que 30 spectateurs, généralement on dit on demande à ce que les spectateurs se mettent devant et tous ensemble, pas un par-ci, un par-là. Parce qu'on sait très bien que ça m'est déjà arrivé de jouer devant des salles où il y avait peu de gens par rapport à la jauge. Et en plus, ils se mettaient aux quatre coins de la salle. Et ça ne donne pas la même chose que si les gens sont ensemble. Voilà, il y a une communauté qui se fait et du coup, il y a un partage qui se fait.
Aujourd'hui, Mickaël Louchard, il est quoi? Intermittent du spectacle?
Oui, je suis intermittent du spectacle depuis 10 ans. Ouais.
Ça a été un moment également d'interrogation sur ce qui allait se passer pour vous?
Mais j'ai pas eu trop de stress pour l'instant, purement économique. Parce que c'est vrai qu'on a un statut qui nous permet, en tout cas quand il est renouvelé, de vivre correctement. C'est une spécificité française et ça c'est chouette. Et c'est vrai que quand le président a déclaré l'année blanche, c'est chouette, merci. Très bien, mais moi ce qui me préoccupait surtout c'est justement, quand est-ce qu'on se remet à travailler? Ça a été ça ma préoccupation, c'est se dire bien d'accord, super, année blanche, tant mieux, il la fallait, mais donnez-nous aussi des perspectives d'avenir, parce que là, il y a encore 3 semaines, on ne savait pas du tout quand on allait pouvoir reprendre, comment, voilà, ça c'était compliqué. Moi j'ai eu du mal, je me suis inquiété par rapport à ça, c'est à quel moment je vais pouvoir me remettre au travail, et c'est pour ça que j'ai décidé de répéter dans mon appartement et de se dire, on va essayer de se donner des perspectives.
Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'il y a eu des alternatives numériques qui sont mises en place. Ça n'a pas empêché tout de même le manque et l'envie aujourd'hui d'exister, d'avoir, comme il est convenu de dire, du présentiel.
Ah oui, moi je pense que le spectacle vivant, c'est sur une scène avec un public devant soi, c'est pas derrière des écrans. Par exemple, Valérie Lemercier, elle refuse que son spectacle soit filmé, enregistré, distribué en vidéo. Et je suis assez d'accord avec elle. Une vidéo d'un spectacle, ça rend jamais aussi bien que l'émotion de l'instant présent, cette osmose ou pas, parfois avec le public. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a du lien qui se crée en chair et en os, et non pas en écran et en visio.
Alors justement, on enregistre ici, on est le 4 juin. Ce soir, Canal+ va diffuser un spectacle de Blanche Gardin qui n'a jamais été filmé,
d'accord,
simplement enregistré, et où des illustrateurs ont dessiné. Il y a peut-être également des formes qui peuvent être originales tout de même.
Ah oui, je n'étais pas au courant, alors je serais curieux de voir ça.
Deuxième partie de soirée.
Deuxième partie de soirée, c'est sur Canal+.
Ouais.
Je n'ai pas Canal+. Je ne suis pas trop télé, donc je n'ai pas tous ces programmes-là. Mais peut-être qu'on peut arriver à une autre créativité, mais néanmoins, je pense que le contact avec le public, et puis à la fin des spectacles, d'aller parler avec le public, moi je trouve ça important.
Quand on se lance dans le stand-up, le one-man show, c'est parce qu'on a du mal à travailler avec les autres?
C'est un travail différent. Ouais, j'ai la chance de pouvoir connaître les deux. J'ai joué dans une dizaine de pièces. En fait, j'ai fait le compte il n'y a pas si longtemps. En 10 ans, j'ai joué dans une dizaine de pièces différentes. Alors beaucoup des comédies, mais avec des troupes différentes, des metteurs en scène différents. Et c'est tout aussi intéressant. Le one man show, ça facilite les prises d'agenda. Voilà. Mais c'est vrai que parfois il manque en one, c'est compliqué, c'est que on est seul. On est seul quoi qu'il arrive.
Donc, il n'y a pas le filet de protection que peut représenter la troupe s'il se passe quelque chose.
Ouais, c'est ça. Parfois, j'ai envie d'être tout seul, donc ça tombe très très bien. Ouais. Et puis, souvent, j'ai envie d'être en groupe, donc j'ai des pièces pour ça.
Je peux vous demander, pour conclure comme ça, de nous donner juste un petit extrait du spectacle. Je ne sais pas, vous choisissez le moment que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme petit extrait là maintenant?
C'est compliqué ça. C'est compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous faire là? Je suis pris de court là. Sur ce spectacle-là, c'est tellement compliqué. C'est parce que c'est sortir un moment d'une trame narrative comme celle-là avec un sujet aussi complexe, c'est compliqué là.
Voilà. Ah oui, non, mais vous avez le droit de dire également, non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Sur ça, en tout cas, je n'arriverai pas comme ça.
Bien, bon spectacle. En tout cas, les dates de représentation ici, on va les connaître dès que possible.
Oui, alors je ne sais plus. Véronique m'a. Je ne sais plus. Je n'ai plus la date en tête, mais c'est au mois d'octobre, en tout cas. Ouais, ça sera. Il y a le Salon du Livre. Donc je fais la veille du Salon du Livre. Le vendredi, je joue. Et le lendemain, c'est le Salon du Livre. Comme ça, ceux qui viendront voir mon spectacle, ils pourront acheter le livre le lendemain en salon.
Voilà. Et le spectacle s'appelle Un père à aimer.
Oui, il s'appelle Un père à aimer.
Voilà. D'accord. Le papa. Qui devient papa et le papa qui peut-être va partir.
C'est ça. Et comment réussir à essayer d'être un bon père quand on a eu une relation difficile avec le sien. Donc il y a aussi une forme de deuil à faire, et de pardon surtout aussi.
C'est plus facile d'être un fils ou d'être un papa pour vous?
C'est plus facile peut-être d'être un fils quand même. Je sais pas. Les deux sont liés. Ouais, c'est plus facile. Parce qu'en fait, quand on est le fils, on n'a pas sur les épaules le poids de la responsabilité. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été papa, je me suis retrouvé. J'ai pris 10 ans. Clairement. J'ai perdu cette insouciance. Et du coup, on est responsable de. On a beaucoup plus de responsabilités. Donc, ouais.
J'ai été papa le 31 mai 98. Ça m'a beaucoup parlé tout à l'heure.
Oui. Bah ouais, c'est drôle. Bah ouais. Bah ouais, moi j'ai deux enfants aussi, un de 99 et un de 2004, donc voilà.
Merci beaucoup.
Bah merci beaucoup, merci.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are the children.
Plus à l'oreille sur Radio Scarpe 107.